Alors, je vais essayer, moi, de voir comment les didacticiens se débrouillent avec tout ça, quoi, finalement, ce qui n'est pas une petite affaire, d'autant qu'il faut intégrer ces savoirs en construction dans les pratiques d'enseignement. Et ces savoirs sont nombreux et ils sont en construction. Ils sont pas toujours stabilisés non plus, on l'a bien vu, et c'est bien normal, puisque c'est le propre de la recherche scientifique. Alors, je me suis dit, comment faire cette affaire? Je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de regarder un peu ce qui apparaît dans les bilans de connaissances, dans les grandes rencontres, dans les grandes manifestations qui ont lieu assez régulièrement, où on vient dire, ben voilà où on en est dans l'enseignement de la lecture. Et j'ai regardé un peu, je les ai pas tous sélectionnés, bien sûr, j'en ai retenu 7 grands rendez-vous de ce type, où on donne des indications précises quant à la didactique de la lecture. Alors, premier... C'est la commission Rouchette, qui dure 10 ans. C'est une longue histoire, j'y reviendrai, 62-72. Deuxième, colloque, tu as fait allusion, organisé par Belac en 79 sur l'apprentissage de la lecture. C'est vraiment un événement fondateur. Le rapport Mijon, en 89, qui essaye de réactiver un certain nombre de choses, mais qui n'y parvient pas, j'y reviendrai. Le livre rouge... sur la maîtrise de la langue, en 92, il y a ici de fameux rédacteurs et auteurs inconnus, ou connus, mais enfin, ils sont inconnus, ils n'apparaissent pas publiquement dans le livre, ils sont très connus par ailleurs, mais ils sont ici. Ensuite, on a là les premières rencontres nationales de la lecture et de l'écriture, en 93, avec 4 colloques scientifiques qui ont des conséquences quand même, négligeables. À la Villette, c'était en janvier 1993. Et enfin, deux événements récents, la conférence de consensus 2003 et le débat avec le ministre d'avant, 2005-2006. Donc 7 grands moments. Alors, ça m'amène à penser, à reparler de l'apparition de la didactique du français. Et à partir de là, j'examinerai, si vous voulez, ce qui me semble être les grandes conscients dans la didactique de la lecture. Puisque les 30 dernières années me semblent marquées par un triple mouvement quant à l'apprentissage de la lecture. Premier mouvement, autour des années 70-80, généralisation apparente des idées des chercheurs de l'INRP, très liés au mouvement pédagogique. Deuxième mouvement, interrogation scientifique des thèses des mêmes mouvements pédagogiques. Le développement, à ce moment-là, est très net. Le développement des recherches se déplacent du point de vue de la légitimité et s'installent très clairement à l'université. Troisième mouvement, les évolutions profondes dans l'articulation recherche-formation. Alors, à chaque fois, j'essaierai, si le temps le permet, de pointer quelques travaux et quelques idées fortes qui orientent fortement la formation et l'enseignement du côté de la lecture. Et là aussi, je crois qu'il y a 3 temps. Un premier temps où la connaissance de l'objet à enseigner est considérée comme quasiment suffisante pour apprendre à lire. Un deuxième temps où l'accent est mis sur les processus d'acquisition, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et un troisième temps dont on n'a pas encore énormément parlé, c'est le temps du regard sur les pratiques. Voilà. Alors, premier appel, donc, c'est celui de l'apparition de la didactique du français, qui va amener l'apparition de la didactique de la lecture. Alors, c'est une invention quand même récente, je crois. Puisque cela remonte à la fin des années 60. C'est une invention très très liée quand même à la commission Rouchette. Cette commission, on le sait, a une vie longue et tourmentée, et elle apparaît, à mon sens, comme le point d'ancrage de la didactique du français. Il s'agissait de quoi? Au fond, des questions qu'on se repose aujourd'hui. Il s'agissait de tirer toutes les conséquences pour l'école élémentaire de la prolongation de la scolarité obligatoire, décidée en 1959. Il était devenu urgent de mieux adapter l'école élémentaire aux populations nouvelles, complètement inconnues de certains enseignants qui la fréquentent. Alors, la commission Rouchette pour le français était d'ailleurs doublée d'une commission comparable, Beleg et Lichnerowitz, pour les mathématiques. Elle donne lieu, cette commission, à un document qui est le plan de rénovation de l'enseignement du français que j'ai apporté ici. Plan de rénovation du français à l'école élémentaire, dit plan Rouchette, du nom de l'inspecteur général qui pilotait ses travaux. Elle a été, je crois qu'il faut le dire, l'occasion d'une bataille mémorable sur la conception de l'enseignement du français. Lors de la préparation et lors de la publication des IO de 72, qu'il ne faut pas confondre avec le plan. Pas du tout, parce que c'est pas la même chose, même si l'un découle de l'autre. Quelles sont les grandes orientations de ce texte, de ce premier texte fondateur? Avec Louis Legrand, je dirais qu'on peut y déceler trois courants qui vont être très très forts et qui vont peser aussi sur
l'électorat. Qui pèsent toujours.
Premier courant, c'est mettre l'accent sur la communication. Il faut mettre l'accent sur la communication. Le rapport le dit sans cesse, le plan le dit sans cesse. C'est d'ailleurs l'apport, pour une bonne part, du mouvement Freinet, qui insiste au sein de la commission pour faire passer cette idée. Face au hiatus profond qui sépare le langage spontané de l'élève et le langage normé, qui est l'objectif de l'enseignement, il faut quoi faire? Que faut-il faire en classe? On dit aux enseignants, eh bien, d'un point de vue didactique, il faut instaurer la communication dans la classe. C'est le premier impératif. Deuxième aspect de ce plan, c'est aussi quelque chose qui va avoir des suites, puisqu'il s'agit déjà de tirer toutes les conséquences des recherches sur la docimologie, des études docimologiques, et des résultats de la pédagogie expérimentale, dans le souci d'adapter alors les contenus enseignés, non pas aux exigences du second degré, mais aux possibilités réelles des élèves. Cette orientation, Liliane l'a dit tout à l'heure, ne va cesser de croître et d'embellir, puisqu'on va voir apparaître les évaluations nationales et les évaluations internationales, PIRLS et PISA, vont peser de plus en plus lourdement, dans des conditions qu'elle nous a explicitées. Troisième aspect de ce plan, c'est l'apport timide de la linguistique. On voit apparaître timidement... Je ne parle pas des instructions. Dans Rouchette. En fait, quand on relit, on s'aperçoit, comme dit Legrand, qu'il n'y connaissait pas grand-chose à la linguistique à ce moment-là, que les travaux vont venir après. Ce n'est qu'au moment des instructions 72, et surtout au moment de la mise en œuvre des instructions 72, qu'on va s'emparer fortement de la linguistique.
Phonèmes graphèmes.
Voilà. Et tout ce travail sur les phonèmes graphèmes et sur Chomsky, en tirant toutes les conséquences de Chomsky.
Sur la grammaire.
Sur les arbres. Les arbres qui vont prendre une place considérable dans les manuels. C'est les arbres, en fait. Hein. C'est Chomsky. Et alors, on va avoir d'ailleurs un certain nombre d'illusions à partir de ce moment-là. En tout cas, ça se caractérise par l'importation dans l'enseignement du français des principes et des contenus de la linguistique structurale. Parallèlement à la rénovation de l'enseignement des mathématiques, qui se fonde également sur l'importation des mathématiques modernes. Voilà. Hein, c'est bien à ce moment-là que les choses se jouent. Sur le fond, la commission remet en cause quoi? Eh bien, la pédagogie traditionnelle, qui est condamnée, la didactique traditionnelle du français, car elle est incapable de répondre aux exigences de la démocratie, de la démocratisation. Elle accumule les retards scolaires et ceux-ci sont principalement explicables par l'impossibilité pour les élèves des classes populaires d'accéder à un maniement correct, aisé de la langue écrite. La réforme proposée part donc de ce constat et elle cherche à expliquer par la nature de la méthode justement traditionnellement utilisée la didactique classique du français qui prétend constituer en somme de toutes pièces la personnalité linguistique de l'élève. Elle part des textes, ceux des bons auteurs, et elle prétend en imprégner l'esprit de l'élève et lui en faire comprendre le fonctionnement par la réflexion et l'énoncé des règles. Voilà. Hein. Alors, la critique de cette pédagogie de l'imposition constitue le point de départ des novateurs avant 68 et après,
avant 68.
Quand on y regarde de près. Le plan pointe une série d'hypothèses sur la lecture, qui vont en grande partie alimenter les recherches ultérieures, particulièrement psycholinguistiques. Certaines de ces premières recherches ont débouché sur ce qui paraît un peu comme des conclusions maintenant ou des acquis. Exemple. On trouve dans ce plan la nécessité d'apprentissage premier étalé sur 3 ans. Grande section CPCE. On trouve aussi, avant même les travaux de Sebel, de Claude Sebel, on trouve la condamnation du redoublement précoce au CP. Ce qui est une idée quand même très très forte. Hein. Et avant que statistiquement, Sebel le vérifie avec le CIGES. Claude Sebel, qui va donner naissance peu après à la DEP. Qu'est-ce qu'on voit encore dans ce plan? Deuxième idée, il y en a 5, hein, grande. La question des articulations indispensables dans l'apprentissage de la lecture. Articulation parler, lire, écrire, d'une part, et articulation d'autre part, travail sur le sens, travail sur la combinatoire, le code.
On dit combinatoire à l'époque.
On disait combinatoire. Voilà. Troisième point, c'est la question de l'étayage. L'étayage du maître, et l'étayage du maître en particulier, est vu du côté culturel. Il doit avoir un étayage du point de vue culturel pour aider les élèves à parler de la langue de l'école, en somme. Quatrième point, le plan pointe aussi les rôles respectifs de la lecture silencieuse et de la lecture à haute voix. Alors ça va faire débat pas mal par la suite. Et cinquième point, c'est l'importance d'une bibliothèque de classe, ce dont nous nous réjouissons tous, de tout temps. Et d'une littérature de jeunesse variée et de qualité dans ces classes. Alors, encore un mot là-dessus, mais Rouchette et Louis Legrand ont une idée qu'ils considèrent comme curieuse avec le recul du temps. Quelle est cette idée? Cette idée, c'est d'expérimenter. Ils veulent expérimenter tout ça. Et ils font appel à une dame qui est très connue dans ces lieux, qui s'appelle Hélène Romian. Elle est chargée d'expérimenter le plan à partir de 1968. Alors que fait-elle? Eh bien, elle consulte des enseignants. Elle associe des enseignants d'où? Eh bien, des écoles normales.
Des écoles d'application.
Des écoles d'application et aussi des IEN.
Oui. Hein?
Alors voilà qui va être le point de départ d'un approfondissement linguistique, sociologique, psychologique du texte, mais aussi d'une évaluation pratique sur le terrain. Ce qui va demander l'association d'équipes, et on vit toujours à l'INRP,
sur cet
héritage-là, des professeurs associés aux recherches de l'INRP. Voilà. Alors, on va voir un premier aspect de la didactique du français qui va apparaître tout de suite. Et ce premier aspect, j'ai dit que c'était l'application, mais en fait, il y a aussi l'expérimentation. Il y a expérimentation et application. Expérimentation parce que Hélène Romian et toutes ses équipes, qui sont très nombreuses, vérifient la faisabilité des idées avancées sur la grammaire, sur la lecture, vont les corriger par la pratique et associer ces praticiens à la réflexion. Mais il y a l'autre aspect. L'autre aspect, c'est quand même l'application. Application. Il y a une tendance applicationniste très forte. On le voit bien pour la lecture, du côté de la didactique, et pour la grammaire. En fait, il s'agit bien d'importer les contenus de la linguistique structurale en grammaire. Et au fond, l'idée, c'est qu'il suffirait de bien connaître les caractéristiques de l'objet à enseigner pour modifier profondément les pratiques d'enseignement. De ce fait, les contenus de formation sont directement empruntés à la discipline scientifique de référence, la phonologie pour l'enseignement de la lecture, la syntaxe chomskyenne avec les arbres pour la grammaire. Selon cette conception, donc cela suffit pour organiser l'enseignement de l'objet. L'essentiel des séances de formation du point de vue didactique consiste alors à présenter ces contenus aux enseignants et à les aider à se les approprier. Par exemple, on propose de faire des dictées phonétiques pour s'approprier l'alphabet phonétique en formation. Vous avez fait ça?
Oui.
Et alors, l'alphabet phonétique international qu'il faut apprendre.
Oiseau.
Voilà.
W-A-S-O.
Comme on expose en grammaire les transformations grammaticales, grammaire chomskyenne, pour préparer les manipulations syntaxiques en classe. Voilà. Alors, dans le sillage de la commission Rouchette, que se passe-t-il? Il se passe beaucoup de choses qui font la didactique. Il y a de grandes contributions qui s'organisent autour d'associations, autour d'institutions, de revues. Alors, j'en citerai 2 ou 3. Je m'arrêterai là. Évidemment, la première, c'est celle... j'en suis membre, alors j'en suis fier, parce qu'on n'est pas nombreux aujourd'hui dedans. Hein, c'est l'Association française des enseignants de français.
Créée en 69.
9. En fait, elle existait déjà un peu avant. Mais il y a le manifeste de Charbonnière.
Voilà, Charbonnière.
Le manifeste de Charbonnière que j'ai apporté aussi. Alors, bon, alors ça, c'est un document tout à fait intéressant à lire pour comprendre la naissance de la didactique. Et pour comprendre sur quoi on met l'accent à cette époque du côté des profs de français. Alors, et qui vont se développer très vite. Aujourd'hui, ça, n'hésitez pas à rejoindre cette association, elle est très utile. Hein.
Et sinon, elle va...
Elle en a bien besoin, disons. Elle en a bien besoin. Alors, il y a une revue qui se crée, c'est le français aujourd'hui. L'objectif tout à fait avoué et louable était de peser sur la rédaction du plan et de jouer dans la réforme annoncée le rôle moteur qu'avait eu l'association, que j'aime beaucoup aussi, qui est l'association des professeurs des mathématiques, puisque j'ai longtemps hésité à faire l'un ou l'autre. Alors voilà. Et il joue ce même rôle dans l'enseignement des mathématiques. Bien. Publication du manifeste de Charbonnière dans le numéro 9, et une volonté didactique apparaît qui reste encore aujourd'hui extrêmement difficile à mettre en œuvre. Quelle est cette volonté didactique qui apparaît dès 1969? Eh bien, c'est celle de la continuité d'un enseignement du français et de la lecture de la maternelle à l'université. On n'est pas au bout de nos peines. On n'est pas au bout de nos peines.
Ou au moins jusqu'au socle commun.
Voilà.
Voilà. Ouais. Au moins jusqu'...
Alors, on pose aussi une idée intéressante. Le maître de français est un maître de lecture, ce qui est nouveau. Hein. Donc les professeurs de français ils veulent également être associés aux recherches sur l'apprentissage de la langue et ils posent cette question centrale. On commence dès 1969 à poser aussi une autre question qui va disparaître pendant longtemps. Et une question à laquelle personnellement je suis très attaché, c'est la question de la lecture littéraire. Dès 1969, dans le manifeste de Charbonnière, on pose cette question. Alors, ça va ne réapparaître qu'avec les programmes de 2002. Ça.
Oui, parce qu'on pose cette question justement parce que si les références sont d'un côté la linguistique et de l'autre côté de la psycho, qu'est-ce que les profs d'école normale qui sont des profs de lettres et qui ont une formation littéraire ont à faire là-dedans?
Et voilà.
Il y a un problème aussi d'identité professionnelle.
Et de boulot. Qu'est-ce qu'on... hein, voilà. Alors, français aujourd'hui. C'est une chose.
Pratique.
Repère.
Repère.
La revue Repère. Premier numéro de la revue Repère, le voici. Hein, voilà, c'est le premier numéro de la revue Repère que Joseph Falda a sorti des cartons. Bulletin de liaison et d'échange des équipes expérimentales de français, dans le premier degré.
C'était un bulletin interne pour les expérimentateurs.
C'était un bulletin interne. Mmh. Voilà, alors, la revue Repère, c'est Hélène Romion qui la pilote, hein. Elle s'ouvre à tous les chercheurs en sciences du langage, en éducation, en didactique, qui sont concernés par la didactique du français, langue maternelle, et qui sont désireux de rendre visibles les recherches en cours. J'ai regardé le sommaire du premier numéro, et alors j'ai rien vu sur la lecture.
Non.
Tout est sur la grammaire structurelle.
Et langage, oui. Grammaire et langage.
Hein? D'une grammaire sémantique à une grammaire structurelle, par Chastain, linguistique, structurelle et pédagogie, Pétard, etc., etc. Pétard, c'est...
Et jeune ouvrier.
Et jeune ouvrier.
Voilà. C'est les arbres.
Et après, Grumès.
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors, rien sur la lecture.
C'est normal.
C'est normal. Parce que la question va se poser avec force un peu après.
Elle n'est pas pensée comme réception de texte.
Et non. Donc, on va voir... Alors, j'en viens à partir de là. Tout ça se lance. Et on va voir comment ça va évoluer socialement et professionnellement. Alors, je reviens sur ce triple mouvement que j'évoquais tout à l'heure. Un, généralisation des idées des chercheurs de l'INRP, très liées au mouvement pédagogique. 7 ans après les instructions de 72, qui sont pas exactement le plan Houchette, mais qui les réécrivent, qui les transforment, il paraît que Pompidou s'en est mêlé, enfin, ça fait beaucoup de bruit, le ministre Belac organise un grand colloque sur l'apprentissage de la lecture. Ce colloque est l'occasion de faire le point sur les recherches en cours et de voir que le temps des certitudes est terminé. La synthèse faite par Louis Legrand pose de très nombreuses questions en ouvrant une série de possibles du point de vue didactique et du point de vue des objets de recherche. 4 questions fondamentales. Rôle de l'oral et de l'oralisation dans l'apprentissage. La question est posée, les réponses parfois ne sont pas apportées. 2e question. Le rapport de la lecture visuelle et de la combinatoire, avec une question qui est posée tout go, je la cite, hein. La combinatoire est-elle un préalable, un frein, un apprentissage différent? Voilà comment on se posait les questions du point de vue didactique à ce moment-là. Troisième question, question sur l'effet éventuel d'une méthode ou d'une autre. Et quatrième question, alors des questions qui sont un peu oubliées aujourd'hui, ce sont des questions sur l'utilité des aides intermédiaires. Alors il y avait les aides par les signes graphiques, il y avait l'alphonique dont on parlait beaucoup.
Les écritures simplifiées,
voilà.
À cause du TAT anglais et des écritures provisoires.
Voilà. Et puis autre aide intermédiaire, c'est le geste. Mm-hmm. Avec la fameuse méthode voilà.
Elle date de 1852. Elle a été inventée par un typographe qui s'appelle Gosselin, et je pourrais vous expliquer pourquoi elle a été considérée par Marie Capcavantier comme étant une très bonne aide, puisqu'elle résout un problème qu'on n'arrivait pas à faire du côté de l'épellation. Voilà.
Alors, le point de désaccord fondamental réside alors dans la place et l'utilité des activités de codage et de décodage. Trois points de vue s'affrontent et on va voir comment ça va être réglé, cette question. Un, premier point de vue très 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 minoritaire aujourd'hui, enfin qui a quasiment disparu, Michel le rappelait, la lecture est une activité strictement visuelle et fonctionnelle. Premier point de vue. D'ailleurs, les mêmes disaient que l'apprentissage de l'écriture peut advenir après l'apprentissage de la lecture. Mm-hmm. Voilà. Deuxième et troisième courant, les deux autres postulent que lecture et écriture sont liées, mais pour l'une, la maîtrise de la combinatoire est un préalable indispensable à la lecture scolaire. Pour l'autre, pour l'autre, lecture visuelle et apprentissage de la compréhension sont à conduire
en parallèle.
Et le grand, très sage, qui était directeur de la recherche.
L'INRP à l'époque.
Oui, l'IPN. L'IPN, puis l'INRDP. Alors, Legrand dit, c'est intéressant parce que les débats, ce qu'il dit, on pourrait le dire bien des fois, quoi. Par-delà les raffinements qu'ont apporté depuis 20 ans les études linguistiques et le développement des techniques de lecture rapide, on ne peut qu'être frappé par la permanence des querelles classiques entre l'apport global et l'apport analytique synthétique de l'apprentissage de la lecture. Et il termine en s'interrogeant. La connaissance scientifique est-elle capable de départager les pédagogues sur ce point ? La réponse, nous l'avons eue aujourd'hui.
Oui. De ce côté-là, oui.
En 2007, c'est fait, semble-t-il, apparemment. Tout du moins, l'affaire est tranchée, pour une grande part dans les pratiques. D'une certaine manière, que je n'ai pas le temps d'analyser ici, ce colloque de 79 marque à la fois l'affirmation et la fin d'une montée en puissance, celle des idées d'un ensemble de chercheurs liés à l'INRP et celle des mouvements pédagogiques, type AFL. Dans les discours didactiques sur la lecture, ils apparaissent occuper largement le terrain, mais en fait, on va voir que les choses vont tourner. Les ateliers, la conclusion, les bibliographies du colloque valorisent les travaux des uns et des autres, mais c'est précisément et très exactement au moment même où ces mouvements semblent entendus par les instances officielles, que leurs travaux sont interrogés et qu'ils entrevoient le risque d'être dépossédés d'un dossier lecture qu'ils ont pourtant beaucoup contribué à faire connaître. Bien sûr, puisque la caractéristique fondamentale, en fait, qui va se voir de plus en plus essentielle des années 80, c'est en fait, même si ces idées-là se répandent dans les pratiques très fortement et pèsent sur le didactique, il n'empêche que la caractéristique essentielle, c'est l'universitarisation des recherches sur la lecture. Et ces nouveaux travaux bousculent les certitudes et les méthodes des premiers didacticiens de la lecture. Le mouvement est irréversible malgré le rapport Mijon qui termine un cycle et dont les références sont soit dans les sciences de l'éducation, soit dans les travaux de Foucambert, Charmeux, Chauveau, Jolibert. Les travaux de ses collègues se répondent effectivement dans les années 80-90, mais l'universitarisation souhaitée de la recherche se réalise ailleurs et sans s'accompagner nécessairement d'un renforcement de la position des mouvements pédagogiques, c'est même le contraire pour eux, et sans s'accompagner nécessairement d'un développement de l'INRP. Enfin, en tout cas, des équipes.
En revanche, le rapport Mijon appelle à la création des IUFM.
Voilà.
Et ça, il aura lieu, mais pas dans la perspective que Mijon avait imaginée.
Non, Non, pas du tout. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Hein. Alors, ce sont d'autres recherches qui vont s'imposer de plus en plus institutionnellement. Les recherches des cognitivistes, tout particulièrement, mais aussi des psycholinguistes, des linguistes, des historiens, des sociologues, qui s'emploient à répondre avec de plus en plus de précision et de fermeté, il faut le dire, aux questions posées lors du colloque de 79. On s'achemine vers un rééquilibrage qui se traduit dans de nouveaux textes et lors de nouveaux rendez-vous. Alors, je citerai, parce qu'il faut aller vite, hein, deux textes, enfin deux moments importants, c'est la maîtrise de la langue à l'école, qui marque vraiment quand même un changement radical, là, et l'organisation des premières rencontres nationales de la lecture et de l'écriture en 93. Quelles sont les conclusions les plus évidentes pour les praticiens dans la classe, pour la pratique de la classe? Quelles sont les conclusions aussi que vont en tirer les didacticiens? Il me semble-t-il, évidemment, c'est toujours risqué de simplifier, de ramasser une douzaine d'idées. Une douzaine d'idées majeures qui sont approfondies pendant les 10 années qui vont des rencontres de la Villette à la conférence de consensus. Première idée, la lecture n'est pas qu'un langage pour l'œil. Et cette idée-là est rejetée de plus en plus. Deuxième idée, réhabilitation du passage par l'oral dans l'apprentissage. Réhabilitation de la lecture à haute voix. Il y a eu un temps où dans les classes, on ne lisait plus à haute voix.
Non. Quand les inspecteurs venaient, on ne lisait plus à haute voix. Moi, je suis persuadée qu'on a
Bien évidemment.
Mais on n'a plus
de valorisation. Mais il y avait un terrorisme. Quoi.
Ouais,
ah, il y avait un terrorisme qui pesait sur la lecture à haute voix et qui faisait que parfois, certains considéraient qu'ils le faisaient quand même, mais avec mauvaise conscience.
Honteux. Comme une activité de pis-aller.
Voilà. Quatrièmement, prise de distance à l'égard d'activités de lecture silencieuse qui laissent les élèves sur des fichiers sans aucune aide individualisée. On se rappelle que les instructions de 85, elles mettaient vraiment en avant cette lecture silencieuse. Sixième point, découverte essentielle du rôle de la conscience phonologique dans l'apprentissage de la lecture. J'y reviens pas, on en a beaucoup parlé. Septième point, retour sur une erreur des dispositifs de formation qui ont sous-estimé le travail de bas niveau. Il y a eu une sous-estimation pendant toute une époque du travail de bas niveau dans la didactique de la lecture, dans l'apprentissage aussi.
Dans les discours issus des UFM, enfin de la formation, du code.
Voilà, mais bon,
dans tout ce qui s'automatise.
Voilà, mais c'était comme ça qu'on disait une époque, hein, en tout cas. On dit toujours, d'ailleurs. On dit toujours, c'est bien normal, ce sont des opérations, oui. Voilà. Huitième point, démonstration est faite que lire n'est pas deviner. Contrairement à une idée courante, plus le lecteur expert, moins il devine. Ce qui allait contre les idées dominantes à un moment, quoi. Neuvième point, nécessité absolue de travailler sur l'identification, le code, la combinatoire, et d'explorer, ce qu'on appelait autrefois la combinatoire, et d'explorer jusqu'au collège les correspondances graphophonétiques. On va disposer pour cela de supports adaptés. Et alors là, se produit quelque chose d'assez fort, c'est la réhabilitation du manuel. Et une recherche qui se développe sur les critères de qualité d'un manuel. Et on commence à voir comment on peut choisir un manuel, à partir de quels critères, en croisant justement les différentes composantes de la didactique, de l'apprentissage de la lecture. Autre point, développer la conscience et la alphabétique et la conscience phonique pour conduire à l'automatisation dans l'identification et la reconnaissance des mots. On va aussi attirer l'attention des enseignants sur l'analyse des stratégies de lecture des élèves. Ça, c'est un point important. Comment est-ce que les élèves s'y prennent pour apprendre à lire? Et notamment, on va accorder une forte attention aux erreurs. On travaille sur les erreurs et aux difficultés. Aux troubles d'apprentissage. Pendant tout un temps, on n'en parlait pas, et à vrai dire, beaucoup d'enseignants se trouvaient un peu démunis vis-à-vis des élèves les plus en difficulté, les 15%.
Ou 10%, ou 5%,
ça dépend des calculs.
Bon, ça veut dire les pourcentages.
Alors, dernier aspect, c'est. Et là, la didactique va jouer. Si elle assume ses responsabilités, elle doit jouer tout son rôle. Il faut tenir ensemble toutes les activités d'apprentissage. Et c'est ça le plus dur. Faire progresser de front lecture et écriture, travailler décodage, production et compréhension. Et c'est ce à quoi s'emploient les didacticiens sur la base des recherches et sur la base des travaux qui nous ont été exposés toute la journée. Combiner pour ce faire l'étude des textes courts et l'approche des textes longs. Alors, c'est là que j'en viens maintenant à la littérature, un petit peu. Pas longtemps, hein. Pas longtemps, un petit peu. Et donc, je pense que, finalement, les recherches des cognitivistes, notamment, les recherches sur la compréhension et l'interprétation, donnent, je dirais pas une nouvelle chance, parce que c'est pas comme ça qu'il faut parler, mais ouvrent un nouveau champ pour l'enseignement de la littérature. Ouvre un nouveau champ difficile, délicat. Mais si lire, c'est construire un modèle, une représentation unifiée d'un texte, si lire, c'est traiter l'explicite, si comprendre, c'est traiter l'explicite et l'implicite du texte, quel est le lieu où justement
les enfants
auront très largement à traiter l'explicite et l'implicite du texte? Bien, le texte littéraire, c'est pas le seul. On est bien d'accord. Mais le texte littéraire s'y prête, à mon sens, merveilleusement bien. Et au fond, on va avoir là un renouveau du travail en didactique de la littérature toutes ces dernières années, sous l'influence d'équipes mixtes, si on peut dire, qui vont considérer qu'il faut apprendre aux élèves à travailler cet explicite et cet implicite. Il faut travailler sur les obstacles cognitifs et culturels. J'en cite quatre. Les élèves ont du mal à se repérer dans le temps des textes. Parce que le temps des textes, c'est un temps très difficile à s'approprier. Ils ont du mal à se repérer dans le temps de leur vie. Comment n'en aurait-il pas à se repérer dans le temps des textes? On va travailler cela à partir de textes littéraires. Ou si on ne comprend pas la temporalité, on ne comprend pas le texte. Les lieux, se repérer dans les lieux des textes. Là aussi, un livre, c'est une circulation dans des espaces réels et symboliques. Et là aussi, il faut apprendre aux élèves à se repérer dans les lieux des textes. Et on aide maintenant, je dirais, du point de vue didactique, des outils sur lesquels je n'ai pas le temps de m'appesantir, mais qui existent et qui peuvent concrètement aider les maîtres dans la classe. Troisième repérage, repérage dans le système des personnages. Là aussi, grâce à toute une série de travaux sur les anaphores, sur les reprises, sur la substitution, on peut aider les élèves à s'approprier un texte et à savoir finalement qui est qui fait quoi, quels sont les personnages et comment comprendre leurs actions. Quatrième repérage sur lequel les didacticiens insistent, c'est le repérage dans le système d'énonciation. Et le texte littéraire permet merveilleusement de faire cela. Et tout cela est souvent implicite. Qui parle, à qui, pour dire quoi? On va le travailler, tout cet implicite-là, on va le travailler autour des textes littéraires. On va le travailler en utilisant des démarches qu'on utilise aussi ailleurs, la reformulation, qui permet de voir quelles sont les zones d'incompréhension, les contresens, qui permet de voir quelles sont les représentations, de les confronter. Et on va les travailler par le débat. Les débats, dirais-je. Les débats qui portent sur les points de réticence du texte, sur l'implicite du texte. Et au fond, ces débats vont avoir le mérite de rendre visible ce qui est invisible dans l'activité du lecteur expert. Et ça, me semble-t-il, c'est essentiel pour aider les élèves les plus en difficulté, qui ne savent pas dire ce qu'il faut faire, qui ne savent pas le faire non plus. Et on va installer, ce faisant, des connaissances métacognitives, tout en lisant la littérature et en discutant, en débattant avec un certain nombre de types de débats sur lesquels l'heure est venue sans doute de faire la clarification. C'est pas lieu aujourd'hui, mais sans doute qu'il faudrait distinguer débats sur la compréhension des types délibératifs et débats sur l'interprétation avec des textes polysémiques. Et enfin encore débat d'opinion qui relève presque du débat philosophique parfois. Mais ce n'est pas l'objet de la réunion. En tout cas, je crois que là, les didacticiens de littérature se sont emparés de manière pertinente d'un certain nombre de recherches pour faire progresser la didactique
de la lecture au sens de l'interprétation des textes.
Au sens de l'interprétation des textes. Voilà. Alors, je termine en évoquant quatre clarifications. Et ça sera la fin de cette intervention. Au fond, on voit se dessiner une sorte de consensus, quand même, si on compare la situation à celle qu'elle était il y a une trentaine d'années. Il y a une sorte de consensus qui se dessine autour de ces points que j'ai évoqués et qui gouvernent l'activité des enseignants dans les classes. Alors, je crois que cette construction résulte de la dissipation d'un certain nombre de malentendus. Et il me semble que ça résulte aussi de clarifications. J'en cite quatre. Première clarification, elle est relative à la nature des supports pour travailler le code et pour travailler la compréhension. on a déjà parlé aujourd'hui, mais à la fin des années 70, le rejet des manuels est fort. On abandonne le livre de lecture pour travailler sur des textes dits authentiques. Et puis, on introduit la littérature de jeunesse pour conduire tous les apprentissages. C'est-à-dire que le livre de littérature de jeunesse devrait devenir le livre d'apprentissage de la lecture. Moi, je mettrai à la point de vue personnel, là, il m'apparaît, je ne sais pas si vous partagerez cette opinion, de plus en plus qu'il n'est pas assuré du tout que ce soit une bonne idée. Que de conduire l'apprentissage du code et celui de la compréhension au cycle 2 sur ce type de support. L'élève risque de ne pas pouvoir conduire les deux apprentissages de fond, car si le texte est vraiment littéraire et résistant, l'élève de cycle 2 va être en surcharge cognitive de toutes parts, et l'effort pénible fait pour déchiffrer ne laissera plus d'énergie pour apprendre à comprendre et pour interpréter. Des textes complexes. À l'expérience, il m'apparaît, mais que la familiarisation avec la lecture de la littérature, si on la conçoit bien comme un moment essentiel dans une pédagogie de la compréhension et de l'interprétation, suppose des supports différents de ceux qui sont massivement utilisés au cycle 2 pour conquérir le code. Au cycle 2, c'est dans bien des cas le maître qui va prendre en charge la lecture à haute voix pour se consacrer ensuite à l'essentiel, apprendre à comprendre comme on faisait avant de travailler le code. Mm-hmm. Et comment on va pouvoir le faire après avoir travaillé le code. Seconde clarification. La connaissance de l'objet à enseigner n'est pas suffisante. Claudine Garcia Debande, dans un article qui va paraître dans Recherche et Formation, revient là-dessus.
Il est sorti.
Elle remarque que dans les années 80, le développement et la recherche psycholinguistique dans les milieux de formation ont déplacé l'attention de l'objet à enseigner au processus d'acquisition par les enfants. Pour enseigner la langue, il ne suffit pas de connaître les caractéristiques du système orthographique. Et pour la lecture, c'est pareil. Et il faut prendre en compte les conceptions des enfants sur le fonctionnement de la langue écrite. C'est ce que fait Emilia Ferrero, notamment. Alors, il y a eu cette prise en compte. C'est le deuxième virage, si l'on veut, de la didactique de la discipline. La prise en compte des processus d'acquisition est perçue comme indispensable pour penser l'enseignement et la formation. Mais ces conceptions ont également conduit à l'illusion qu'on en vient à dénoncer. Connaître au fond les travaux de Gombert sur l'importance des activités phonologiques précoces ne suffit pas pour penser la classe de lecture. Troisième clarification, connaître les processus d'acquisition n'est pas suffisant non plus. On l'a vu encore aujourd'hui, finalement. Les conduites enseignantes ne sont pas régies que par des considérations rationnelles sur la lecture et sur l'apprenti lecteur. Il faut observer le travail effectif de l'enseignant, voir comment il conjugue tout ça, quels que soient ses discours, quelles que soient ses références, quelles que soient ses théories. Voir les pratiques, voir comment évoluent les savoirs de la pratique. Alors, Anne-Marie a travaillé là-dessus. Il y a un article qui est une série de considérations qui sont bien connues maintenant. Guagou aussi. L'équipe de Claudine Garcia Debord, on pourrait citer aussi tous les travaux sur les gestes professionnels qui arrivent finalement maintenant à prendre une importance tout à fait considérable, avec une question que les didacticiens se posent, est-ce qu'on risque pas d'aller encore vers un oubli, quoi?
J'ai assisté. Connaître la théorie des gestes professionnels ne suffit pas à les...
Oui. Et puis d'autre part, on va se braquer sur le geste, un peu finalement comme si on appliquait Yves Clos.
Oui.
Yves Clos dans le monde de l'enseignant, sans penser au contenu. Ouais. C'est ça qui fait peur aux didacticiens. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on raisonne en termes de gestes professionnels, mais le contenu, alors, il disparaît parfois. Mm-hmm. Alors là encore, il y a vraiment une articulation difficile à faire. Dernière clarification, et je m'arrête, tout à fait. J'en ai pour 3 minutes.
Ah, parfait, tu les as.
Qu'est-ce qu'un travail scientifique ? Au fond, c'est ça la question qui a été posée pendant toutes ces années. Qu'est-ce qu'un travail scientifique ? Qu'est-ce qu'un chercheur dans le champ de la lecture ? Qu'est-ce qui définit l'acceptabilité d'un travail scientifique ? Qu'est-ce qui distingue cela d'une approche militante de l'apprentissage de la lecture? Voilà.
Ou pédagogique, non militante.
Ou non militante, oui.
Oui, c'est ça.
Fijalkov, je me souviens d'une parole de Fijalkov à Lacano, dans une université d'été, qui dénonçait, de ce point de vue, dans un silence étonnant, les approches idéologiques. toutes celles qui ne reposent pas sur des faits et sur des bases empiriques solides. Et étaient visées, bien sûr, Freinet, Smith, l'AFL et compagnie. Quoi.
À l'époque.
Et dénonçait finalement tous les idéologues de la lecture dont les promesses ne donnent pas lieu à évaluation. Et parce que voilà.
Et maintenant, il fait de la recherche action.
Et voilà. Vous voyez comme les choses évoluent. De fait, on prend conscience, au-delà de ce que nous disait Jacques, on prend conscience que l'innovation pédagogique dans le champ de la lecture ne se confond pas avec la recherche scientifique. Pour l'innovateur qui se positionne à l'avant-garde de l'évolution de son sujet, l'évaluation de l'action se fait par l'examen des résultats, finalement, là où il est. Si ça marche ou si ça marche pas. C'est cela qui le préoccupe. L'innovation déclenche les résultats espérés ou pas. Dans ce premier temps, les innovateurs ont tendance à ne pas trop se préoccuper de l'efficacité de leurs propositions pour d'autres lieux. Ils ne raisonnent pas en termes de transfert et de généralisation. C'est ici, d'ailleurs, que l'innovation militante trouve ses limites, dans la mesure où l'évaluation obéit davantage à une axiologie politico-sociale que technique et scientifique. De ce point de vue, la mise en place des évaluations nationales, quels que soient leurs défauts, en introduisant des indicateurs objectifs valables pour tous, a considérablement modifié la donne. L'objectif est bien de faire progresser l'ensemble des élèves par une mobilisation de l'ensemble des équipes pédagogiques et non plus d'entraîner quelques collègues dynamiques dans une procédure d'amélioration partielle locale. Dans ces conditions, les chercheurs sont incités à travailler non plus avec des classes et des équipes choisies, mais avec des classes ordinaires pour des protocoles de travail ordinaires. C'est bien à cette nouvelle démarche qu'invite la recherche universitaire. Et alors, pour les didacticiens, je crois que tout ça rend les choses encore plus complexes. Parce qu'il faut tenir toujours plus de choses ensemble. Il faut conjuguer les trois composantes, connaître l'objet, les processus, les pratiques. Et bien, j'aurais bien envie de vous dire, nous dire bon courage pour tout ça.